Commençons par prier. Seigneur, nous voulons te prier de nous enseigner, je te prie d'avoir pitié et de m'utiliser pour que ensemble nous puissions apprendre un peu plus sur tes enseignements, sur ce que tu nous as transmis depuis si longtemps, comment le mettre en pratique, comment y réfléchir, comment intégrer ces enseignements dans nos vies, ces enseignements de vie, ces enseignements de vérité, de grâce, par lesquels nous pouvons être une bénédiction pour d'autres, un encouragement, par lesquels nous pouvons être tes mains et tes pieds dans ce monde. En ton nom je prie, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les 10 commandements. Ça, tout le monde le connaît, tout le monde a déjà entendu parler. Et en même temps, il y a toujours quelque chose à apprendre. Vous avez observé que déjà, il y a deux tables de la loi sur lesquelles il y a les deux parties. Vous vous rappelez pourquoi il y a deux parties? Quelle est la différence entre les deux côtés?
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a d'un côté, Colline?
À la droite, c'est le premier 4 commandements.
Oui.
Et le 4, c'est tout ce que fait avec notre attitude à Dieu.
Oui.
Et le 5 et 10, c'était notre comportement et notre attitude avec nos prochains.
Tout à fait. Donc on a ce qu'on appelle la première table, qui sera les commandements relatifs à notre relation avec Dieu. Dieu le Créateur, Dieu celui qui va nous inviter finalement à répondre à lui. Et la deuxième table, ça va être la table qui nous parle de la relation avec notre prochain. Et l'un et l'autre sont quasiment inséparables. La raison pour laquelle on est invité à aimer notre prochain, c'est parce qu'on aime Dieu. La raison pour aimer Dieu, c'est parce qu'on aime notre prochain. Dans les deux sens. Si on aime ce qu'il y a dans ce monde, si on croit qu'il y a un créateur, qu'il y a quelqu'un qui a créé ce monde, forcément qu'on va aimer celui qui l'a fait. Si on aime quelqu'un qui a fait des choses, on va aimer les choses que la personne a faites. Et les deux sont intimement liés. On a vu comment les quatre premiers commandements, on pouvait s'en rappeler. Est-ce que tous ceux qui étaient là la semaine prochaine, vous pouvez voir, ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez vous détendre, vous n'avez pas besoin de vous soucier. Tous ceux qui étaient là, alors il y avait Dominique, Alexandre, Colline, Laurence et Lily. Les autres, vous pouvez être détendus, mais à la fin du culte, je vous demanderai d'avoir appris. Donc vous pouvez garder vos graphiques et on va faire les 10 commandements ensemble, les apprendre. Le but pour moi, c'est que vous vous rappeliez un peu ces points clés. Alors on va cacher, vous êtes bons? Alors, est-ce que Lily, je peux commencer par toi? Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que c'est le commandement numéro 3?
Tu n'utiliseras pas
mon nom, le nom de Dieu en vain. Très bien. Tu choisis une prochaine personne qui a été là. Et si tu ne sais pas trop, vous pouvez lever la main, mais je crois que tu en as quelques-uns déjà. Est-ce que Tommy, tu as appris toi?
Non.
On te laisse en dehors du... Alors, vas-y Lily, choisis. Alors, tu peux dire soit un numéro, soit une image, soit un morceau du titre. D'accord. Pas non plus. Ah. Et tu vois, ils sont très désolés de ne pas avoir été là, mais Dominique, Colline et Laurence étaient là. Donc,
Alors, Colline, qu'est-ce que c'est le commandement qui est avant celui-là?
Avant, c'est avant que vous avez bien parlé de deuxième. D'accord. Ça va être le premier commandement. Ouais. que vous aimez, et c'est un chiffre 1, ce que vous mettez Dieu avant tous dans ce monde, et tu vas aimer que Dieu et pas les autres. Tu aimes avec tout vos nez, tout vos êtres.
Merci. Colline, à toi. Anton, il n'était pas là. Est-ce que tu as appris? Ah, non. Là.
Il... Le homme déçu là.
Alors, l'homme déçu là, c'est le quatrième commandement. Tu respecteras le jour du sabbat.
Tu arriverais à nous, te rappeler ce que ça veut dire, sanctifier? C'est un drôle de mot, ça. Ouais, et comment on rend saint un jour? On lui met de l'encens dessus? C'est bon.
S'isoler tout seul dans sa chambre en disant « Laissez-moi tranquille, je vais méditer, je vais justement me partager avec les autres. »
Voilà, très bien. Alors, il y a encore Dominique qui souffre parce que personne ne lui a posé de questions.
Donc, le chiffre 1, c'est-à-dire qu'on aura un seul Dieu, hein, pas 50 dieux, mais un seul Dieu. On est appelé à aimer ce Dieu unique. Le deuxième commandement qui est un peu lié au premier, parce que justement de ne pas faire d'idole, c'est-à-dire de ne pas avoir d'autres dieux, parce que souvent c'est des idoles représentées d'autres dieux. Et j'ouvre une parenthèse, ce qui est intéressant, c'est que Dieu, le seul Dieu, ne veut pas qu'on fasse une statue même de lui. Mm-hmm. Donc ce commandement, c'est pas seulement de faire des statues pour les autres, mais seulement et pas de lui. Et qu'on adore uniquement lui. Et qu'on n'a pas, d'image taillée, ni de lui-même Dieu, et encore moins d'autres dieux, d'autres choses. Ensuite, c'est le troisième commandement. Ça représente donc le nom de Dieu écrit en hébreu, l'écriture de l'époque, et qui dit qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu en vain. Hein, comme nous le savons, nous avons beaucoup d'expressions qui nous finissent par Dieu, des mots que je ne citerai certainement pas. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas utiliser le nom de Dieu dans des excès d'humeur avec des mots, et aussi de ne pas utiliser à chaque fois « Ah, Dieu ceci, Dieu cela mm-hmm. ». Donc, vraiment, de voir que c'est un nom sacré qu'on utilise dans les mots bien définis, mais pas à tout bout de champ. Mm-hmm. Et le dernier commandement, donc, il y a un homme qui est sous un arbre. Et, quatrième commandement, c'est donc il faut se reposer le septième jour. Reposer le septième jour, un jour de repos par semaine, le septième jour. Ou donc nous ne faisons aucune tâche, mais que vraiment nous consacrons à Dieu, à notre relation avec Dieu. Aussi un temps de repos, en méditation, un temps de partage de la parole de Dieu. Mm-hmm. Une journée auquel on va lui consacrer entièrement.
Tout à fait. Merci. Oui, Laurence.
Je me demandais les paroles qui sont écrites tout en haut en blanc, et j'ai séché pour les répondre.
Ah oui,
je le souhaitais plus.
Ah, oui,
alors, les paroles tout en haut en blanc, Frédéric, c'est l'introduction. Les débuts, le premier verset du chapitre 20 de Exode, qui pour le peuple juif est le premier commandement, qui est de se rappeler que on va écouter tous les autres parce que Dieu nous a délivrés. Dieu a délivré le peuple et c'est parce qu'il l'a délivré qu'on va lui obéir. Si Dieu n'a pas fait de bonnes choses, eh ben il n'y a pas de raison qu'on lui réponde. Donc son autorité vient de sa capacité à faire du bien, à nous délivrer. Et je dirais dans le monde actuel, nous avons un grand besoin de reconnaître tout le bien qui nous a été fait. Nous avons besoin de reconnaître tout le bien qui nous a été fait. Nous sommes dans un monde où, de plus en plus, on souligne, et dans le groupe d'hommes qu'on a eu hier, on souligne les droits que nous avons, mais par contre, les devoirs que nous avons, aucun devoir. Un enfant va dire à ses parents, vous avez le devoir de faire ci, ou à la maîtresse, vous avez le devoir de faire ça. Et la notion de devoir que eux ont envers les autres est complètement oubliée. Est-ce que quelques personnes parmi vous ont manqué d'électricité hier? Vous pourriez lever la main? Est-ce que vous pensez que c'est un bon droit que des personnes puissent couper les trois quarts du Nil d'électricité? C'est pas une bonne chose. Qu'est-ce qui se passe? Les gens essayent d'utiliser leurs droits pour obtenir des choses de manière détournée, sans prendre conscience que si on a un travail de fournir l'électricité aux autres, c'est aussi un devoir d'être fidèle. On ne peut pas faire seulement la notion de droit et pas de devoir. Quand vous avez une société qui souligne que les droits, moi j'ai le droit, moi j'ai le droit, qu'est-ce qui se passe? Cette société va mourir. Vous allez avoir des gens qui vont par exemple dire, en grand nombre, nous avons le droit, l'État français nous doit de l'argent. Nous, tous les ans, tous les mois, on veut que l'État français nous donne l'argent. S'il nous donne moins, on va se mettre en colère. Est-ce que c'est une bonne chose que l'État français puisse supporter même des personnes qui n'ont pas de travail? Oui, c'est une bonne chose. Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'État. C'est pas un devoir. L'État, du jour au lendemain, peut décider par vote de dire le CSA, le RMI, disparu. Ou décider, tout d'un coup, la couverture sociale, ça disparaît, on ne peut plus la fournir. Et je vais vous dire quelque chose qui a un aspect peut-être choquant. Ça va disparaître un jour. Ça va disparaître un jour. Ce n'est que temporaire. Parce que le poids des charges, des devoirs, quand il est trop grand par rapport au droit, à ce qu'on peut obtenir, vous savez ce qui se passe? Ça déséquilibre et ça casse le système. Et un jour, ça va s'arrêter. C'est quelque chose qui va faire partie des livres d'histoire un jour. On va dire oui, les États se sont rendus compte qu'à un moment donné, il fallait qu'ils rééquilibrent. C'est pour ça qu'il y a eu le début de la 6e République en France, ou qu'il y a eu tel mouvement qui s'est manifesté. C'est une évidence. C'est seulement du bon sens. Quand une société n'a plus que des droits, j'ai le droit de ceci, j'ai le droit de faire grève. Vous n'avez pas habité en région parisienne, mais j'aimerais vous dire une chose. Près de Noël, les conducteurs de RER et de métro vont faire la grève en France, près de la région parisienne. Et vous avez des gens... Il y avait là une nounou que je connais, qui s'appelle Jeanne, qui me disait, moi, à cause de la grève des conducteurs, qui eux sont fonctionnaires, qui ont les congés de fonctionnaires, qui ont des primes, qui ont le droit de finir de travailler, d'avoir leur retraite beaucoup plus tôt que les autres, ils font la grève tous les ans parce que ils peuvent, par leurs droits, presser les autres. Et cette nounou me disait, ben moi, à chaque fois qu'il y a ces grèves de fin d'année, je dois faire 2 heures de trajet minimum par jour, le matin et le soir. 2 plus 2, ça fait 4 heures par jour. Elle a des enfants, elle doit travailler 8 heures par jour, elle doit manger. Et 2 heures, c'était quand ça va bien. Il y a des gens qui vont faire encore plus de trajets à cause de ces problèmes. C'est catastrophique comment les droits et les devoirs, quand ils ne sont pas équilibrés, ça casse la société. Et c'est là que je dirais, les 10 commandements... ont été les fondements et sont les fondements des relations entre nous. On ne peut pas dire que nous avons le droit de faire ce qu'on veut. Nous avons des devoirs. Un de ces devoirs, Jésus, on lui demandait, c'est quoi les devoirs d'une société? Quelles sont les lois fondamentales? Et qu'est-ce que répondait Jésus? Le premier, c'est quoi? Aimer Dieu. Aimer celui qui a tout créé, dont on bénéficie sans le reconnaître souvent. Et quand on oublie, on va détruire ce qui fait notre joie. Quand on l'oublie, on va faire détruire ce qui fait notre joie. Si vous regardez les photos à Tokyo, la plupart des gens, ils ont quelque chose sur le visage. Vous avez déjà vu ces photos?
Oui, des masques.
Des masques. Pourquoi ils ont ça?
Pour la pollution.
Pour la pollution. On retrouve cela dans d'autres villes dans le monde. Et la pollution, c'est quand on a détruit l'air. L'air, normalement, est bon, mais il peut être détruit. Qui d'entre vous paye une facture d'air tous les mois? On ne paye pas, c'est des choses dont on bénéficie. La terre, bien sûr que les gens se la vendent, mais honnêtement, elle appartient à personne, la terre. Il y a des pays où quand on achète la terre, au bout de 100 ans, ça revient à l'État. Ça, c'est des techniques qui sont pas mal, comme ça, l'État récupère toutes les terres. En Ouganda, ça marche comme ça, et dans certains pays, ça marche comme ça. Madagascar aussi. Et vous voyez qu'il y a toute cette question de droit et de devoir, et que vous, en tant que Français, dans la mesure où vous êtes Français, Vous avez découvert comment dans l'État français on souligne beaucoup les droits, on a des droits. La notion de devoir est beaucoup moins soulignée. Et je dirais, c'est ça qui, si sur le long terme ça n'est pas corrigé, ça casse une société. Ça casse une société. Je pourrais vous prendre des exemples, la Rome antique. Je pourrais vous prendre d'autres exemples. Comment les États, quand il y a trop de droits, finalement ils se cassent. Et Rome antique, l'Empire romain, je parle. Hein. On pourra en discuter. Comment il a chuté, comment il y a eu toute cette aisance et c'est j'ai le droit de. Et vous avez finalement Dieu qui, à travers les 10 commandements, donne des repères de devoirs. Les devoirs des citoyens du royaume des cieux. Des citoyens qui appartiennent au peuple de Dieu. Il leur dit, voilà, vous avez ces devoirs. Les premiers, c'est d'honorer Dieu, de ne pas mettre d'autres choses à sa place, parce que toute chose mise à sa place va avoir un impact. Et ce que Dieu veut aussi, c'est qu'il n'y ait pas d'esclaves. Dieu veut que nous ayons des relations d'amitié, de fraternité. Je parle de fraternité. Vous avez déjà entendu le mot fraternité dans l'État français ? Et à chaque fois que j'entends le terme fraternité dans coupé de la relation à la foi, je pose toujours la question. Comment est-ce que deux personnes peuvent être frères s'ils n'ont pas le même père ? Qui est le père ? Est-ce que votre père, c'est l'État qui vous a donné naissance ? Non. Non, même si l'État fait beaucoup de bonnes choses. C'est Dieu. On vient de quelque part et on va en parler avec le commandement numéro 5, cette méditation d'où est-ce que nous venons. Avant que nous arrivions à cela, j'aimerais vous souligner une chose. L'exemple qui est donné dans la culture moderne de société idéale, ça s'appelle la démocratie. Et on la promène dans le monde entier en disant les peuples qui vont pas bien, s'ils font la démocratie, ça va bien se passer. Vous savez d'où vient la démocratie ? Elle vient de la Grèce, c'est à Athènes et dans les cités-états autour d'Athènes qui a commencé le terme de démocratie. Démocratie, c'est la kratos en grec, ça veut dire pouvoir, démos, ça veut dire peuple, le pouvoir du peuple. Vous savez combien il y avait de citoyens s'il y avait eu, disons, 100 000 personnes à Athènes ? Vous savez combien il y avait de personnes qui étaient citoyens sur ces 100 000 personnes ? Au maximum 10 000 personnes, au maximum à peu près 1 sur 10, peut-être 1 sur 5, au maximum, grand maximum. Et les autres, vous savez qu'est-ce qu'ils étaient, eux ? Étrangers. La grande majorité étaient des esclaves. Il y avait une minorité d'étrangers, la majorité, c'était des esclaves. L'idéal que nous donnons au monde moderne est un idéal dans lequel il y avait quelques hommes libres, et la plupart des esclaves. Parce que les hommes d'Athènes pouvaient discuter si longtemps à l'aéropage et avoir du temps pour discuter sur les façons de gouverner. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas besoin de travailler. Et qui c'est qui travaillait, qui rangeait leur maison, qui leur faisait à manger, qui cultivait leurs champs ? Leurs esclaves. Et ça, il ne faut pas l'oublier. La démocratie, donnée comme exemple, est une société faite d'esclaves. Et c'est seulement parce qu'il y avait des esclaves qu'ils pouvaient avoir des hommes libres. Entre guillemets, libres, libres de ne pas travailler. C'est les autres qui faisaient leur travail pour eux. Et ce qui me frappe toujours, c'est qu'on ne donne jamais l'exemple de la société israélite, du peuple juif, du peuple de Dieu, que Dieu avait touché comme exemple, alors que dans ce peuple-là, l'esclavage était quelque chose de temporaire et on ne pouvait jamais avoir un esclave du peuple. On pouvait, nous, quand on était très pauvres, vendre notre travail, devenir esclave pour un temps. Mais c'était toujours pour que soit la famille rachète cet esclave, soit le maître doive libérer cet esclave au bout d'un temps donné. Soit c'était 7 ans, les années de sabbat, soit au maximum 49 ans. Ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas naître, avoir des familles qui sont esclaves de père en fils. Ce qui était le cas dans tous les endroits au monde ailleurs. Et une des façons de l'enseigner, c'était d'enseigner aussi que même si quelqu'un était votre esclave, d'abord vous n'aviez pas le droit de vie ou de mort, il y a tout plein de lois sur ce que vous pouvez faire et vous ne pouvez pas tuer votre esclave. Alors qu'à Rome, qui était la société, je dirais, le plus proche de la démocratie, au moins pendant toute une partie de Rome, la République romaine, après c'est devenu un empire, le père de famille avait le droit de tuer qui dans sa famille ? Est-ce qu'il pouvait tuer ses esclaves ?
Oui.
Est-ce qu'il pouvait tuer sa femme ?
Oui.
Est-ce qu'il pouvait tuer ses enfants ?
Oui.
Il pouvait tuer qui il voulait. Et à Athènes, c'était pareil. C'était aussi le droit de vie ou de mort sur tous ceux que vous possédez. Et dans la société du peuple juif de l'époque, est-ce qu'on pouvait crever un œil à un esclave ? Qu'est-ce qui se passait si vous creviez un œil à un esclave ? Si vous creviez un œil à votre esclave, l'esclave partait libre. Vous n'aviez plus aucun droit sur lui. Par votre violence envers lui, vous aviez perdu tout droit sur lui. Est-ce que ce n'est pas plus exemplaire, ça, que la société d'Athènes où des gens tuaient d'autres ? Et pourtant, mystérieusement, ce n'est jamais donné en exemple. J'aimerais continuer. L'exemple du repos. Les esclaves, est-ce qu'ils avaient le droit de se reposer ? Dans la société grecque, romaine, est-ce qu'ils avaient un jour de repos ? Est-ce qu'ils avaient des vacances, des congés payés ? Dans quel peuple, la première fois, on va avoir un peuple qui va donner du repos aux personnes qui travaillent pour eux ?
Dans la société juive.
Dans la société juive, suivant les commandements de Dieu, le sabbat est unique. Vous pouvez regarder les lois hittites, les lois babyloniennes, les lois égyptiennes. Il n'y a pas de repos donné aux personnes qui ont travaillé pour vous. Et j'aimerais que, Lily, tu pourrais nous lire dans le chapitre 20 de Exode. Et ensuite, Anton, toi, tu vas te préparer en Deutéronome chapitre 5. Alors, Lily, tu te prépares chapitre 20, les versets 8 jusqu'à 11. Écoutez bien et vous allez faire la comparaison entre les deux textes. Exode 20, versets 8 à 11, et Anton, tu te prépares en Deutéronome 5, les versets 12 à 15. Deutéronome 5, versets 12 à 15. Deutéronome 5, versets 12 à 15. Alors Lily, on t'écoute pour l'enseignement sur le sabbat, si tu pourrais nous lire.
En effet, en six jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le septième jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint.
Merci. Pour quelle raison est-ce que Dieu demande de garder un jour de repos ? Pour limiter. Dieu veut qu'on limite. Honnêtement, est-ce que Dieu avait besoin de se reposer, de travailler six jours, puis après, est-ce qu'il avait mal au dos, à votre avis, Dieu ? Il s'est dit, oh là là, j'ai mal au dos, j'ai un peu trop bêché la terre, là, et puis fabriquer l'homme avec la poussière, ça m'a vraiment fatigué, il faut que j'aille me reposer au moins une journée. Franchement, si Dieu est Dieu, si vraiment il est celui qui a créé la personne, l'entité qui a créé cet univers, il n'a probablement pas besoin de se fatiguer, de se reposer. Maintenant, s'il veut nous montrer un exemple, s'il veut être un enseignant envers nous, pédagogiquement, ça sera très bon. Il nous montre un exemple à nous à suivre. Donc la raison c'est du sabbat, c'est de faire à l'exemple de Dieu. Et ce qui est frappant et qui était choquant à l'époque, c'est que non seulement les personnes israélites, les chefs de famille devaient se reposer, mais est-ce que la femme du chef de famille devait se reposer ? Est-ce que les enfants devaient se reposer ?
Oui.
Est-ce que les serviteurs devaient se reposer ?
Oui.
Alors, on va voir dans un autre texte. Ici, on a juste les serviteurs. C'est très intéressant. Et dans les familles juives, on pourrait dire, ah mais quand ils font les repas, le sabbat, ça doit être fatigant pour la femme. Hein, honnêtement, c'est bien gentil de dire qu'il y a un jour de sabbat, mais il faut bien que quelqu'un fasse le repas. Eh bien, il faisait la veille. Comme ça, tout le monde se repose le jour du sabbat. Et la maîtresse de maison, et les enfants, et les hommes, tout le monde. On va lire maintenant, on va écouter, Anton va nous lire Deutéronome 5. Écoutez bien et vous me dites si vous trouvez des petites différences et lesquelles, avec le texte que Lily nous a lu. Donc Deutéronome 5, les versets 12 à 15.
Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucun de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent contre toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos.
Merci Anton. Qu'est-ce que vous voyez comme différence entre les deux textes? C'est quoi la motivation pour le jour du sabbat dans ce texte? Pourquoi est-ce qu'on doit garder le sabbat? Parce que Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte. Qu'est-ce que c'était dans le texte de Exode que Lily nous a lu? Faire comme Dieu qui s'était reposé après 6 jours. Est-ce que c'est la même chose? C'est un peu différent. Il y en a un, c'est lié à la création. L'autre, c'est lié à la libération. Création et libération. Création de l'univers, libération du peuple d'Israël. C'est deux activités de Dieu. Dieu crée et Dieu libère. Et ce deuxième texte a été donné 40 ans plus tard. Le premier a été donné quand ils sont sortis d'Égypte, quand Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours, qu'il a reçu les deux tables de la loi. Ceux qui ont vu des films, vous avez probablement vu, avec les deux tables, Moïse qui est tout beau, qui est tout rayonnant quand il redescend. Et la deuxième fois, ce texte de Deutéronome, c'est quand Moïse va enseigner la nouvelle génération après 40 ans dans le désert parce que le peuple a été infidèle à Dieu. Il n'a pas voulu suivre les promesses de Dieu et Dieu a dû le garder dans le désert pour enseigner que la prochaine génération soit délivrée parce que l'esclavage du peuple d'Israël n'était pas que dans l'apparence, il était dans la tête. Le peuple, quand on a grandi dans l'esclavage, on est habitué à penser comme des esclaves. Le peuple d'Israël avait grandi avec l'esclavage d'Égypte. Dès qu'il voyait le pharaon, il tremblait, il ne faisait plus rien, il se disait « on ne peut pas se défendre ». Et Dieu a d'abord dû leur montrer « Regardez, je suis capable de me battre contre cet ennemi que vous croyez tout puissant. » Et ensuite, quand ils ont eu des problèmes dans le désert, le peuple d'Israël, habitué à l'esclavage, a dit « Ah, c'était mieux en Égypte !» Ils oublient qu'il y avait la souffrance à cause de l'esclavage, mais ils se rappellent qu'ils avaient des oignons, les oignons d'Égypte, comme on dit, qu'ils avaient des bons légumes, qu'ils avaient des bonnes nourritures. Donc ils se rappellent que l'esclavage, il y avait du bon. Et c'est ça que finalement, Dieu va devoir enseigner et préparer une nouvelle génération. C'est là que Dieu se rend compte, cette précédente génération est tellement habituée à l'esclavage qu'ils ne sont pas prêts à agir en tant qu'hommes libres, à se battre pour cette liberté, à se protéger, à avoir confiance, parce que la liberté entraîne le besoin de courage, le besoin finalement de faire des choses nouvelles, d'essayer de nouvelles choses. On n'est pas protégé sous une structure qui nous écrase des fois aussi. Et c'est là que Dieu va devoir préparer une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, il va leur souligner le fait qu'il les a libérés, parce qu'eux n'ont pas vécu cela. Et libération et création sont intimement liées. Quand Dieu crée, quand Dieu fabrique quelque chose, c'est aussi un désir de liberté qu'il a. Dieu n'a pas créé le monde pour en faire son esclave. Dieu n'a pas créé le monde pour que ça soit des petits jouets. Il vient prendre cette montagne, il s'amuse, allez, il la lance de l'autre côté. Dieu a créé ce monde pour des rencontres, pour une relation avec cette création, pour de l'amour entre nous, entre les êtres humains. Je suis toujours émerveillé par la variété dans la création. Vous ne trouvez pas ça surprenant, le nombre de différentes fleurs? Dieu, il aurait pu dire, allez, on va planter des marguerites partout. Allez, j'ai fini mon travail, il y a toutes les marguerites, bon, les arbres, allez, les êtres humains, ils aiment bien les mangues, allez, on va leur mettre des mangues partout. Et après, les mangues, ça va vous sortir par les oreilles. Même les mangues josées, etc. Si vous n'avez que ça toute votre vie, vous en avez marre après. Et il y a cette variété dans la création, incroyable. Et à La Réunion, vous avez toute cette variété de fruits qui est impressionnante. Et à Madagascar aussi, il y a une création. Dans la création, il y a une variété incroyable d'animaux, de plantes, de paysages. Et c'est un Dieu qui veut, par conséquent, nous libérer d'une vision étroite, nous libérer d'une relation où on va essayer d'imposer notre pouvoir sur l'autre et où il y aura une relation entre les autres, entre les différentes personnes. Quelle est l'autre différence entre les deux textes? On a vu la motivation. Qui devait se reposer le jour du sabbat dans le texte que Lily a lu? Tu te rappelles, toi, Lily, il y avait toi qui dois te reposer, donc. J'aimerais vous faire une remarque. Il est dit, toi, ton fils et ta fille. Il n'est pas dit, toi, ta femme, ton fils et ta fille. Pourquoi? L'homme et la femme sont un, d'accord. Donc la femme, non seulement elle doit rien dire, mais en plus elle doit faire exactement comme le mari. C'est ça?
Non, mais ce qui vaut pour l'homme, vaut pour la femme, c'est la création, la créature.
Oui, c'est pour l'homme et pour la femme. Si vous aviez eu toi, ta femme, ton fils et ta fille, dans ce cas-là, c'est qui était plus important? L'homme. Qui était en relation avec Dieu?
L'homme et pas la femme.
Là, la conclusion, c'est que l'homme et la femme sont en relation avec Dieu. Ton fils et ta fille, ta servante, ton serviteur, ta servante. Dans le texte de Lily, qu'est-ce qu'on avait en plus dans le texte qu'Anton a lu en Deutéronome? Ton bœuf, ton âne, ni tout ton bétail. Franchement, c'est pas un peu extrême là? Dieu qui demande que même les animaux se reposent un jour? Oh, ils peuvent dormir, ça leur suffira. Hein. Ils vont pas faire grève, eux, en tout cas.
Dieu aussi les a créés.
Et qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à vous rendre compte que vous avez des devoirs envers la création? Qu'est-ce que ça change comme approche? On est dans une société qui est très tournée vers la consommation. On veut utiliser le maximum de choses pour le maximum d'utilité, et après on fait quoi? On jette. On veut utiliser un animal le plus possible et après on fait quoi avec? On jette.
On le mange.
Les enfants nous disent, on veut un gentil chien, on prend un chien pour la famille et ensuite on part 3 semaines en vacances en métropole. Qu'est-ce qu'on fait avec le chien? On le jette. On l'emmène à la plaine des sables et on laisse le chien où il ne retrouvera jamais le chemin. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de chiens. C'est des exemples. Je vous dis juste l'exemple de la réalité de nos vies. On a tendance à être des personnes qui prennent et qui jettent. Et on utilise cette création comme si ça nous appartenait. Et Dieu, à travers cette conscience qu'il veut donner à son peuple, qu'il a des devoirs envers ses serviteurs. C'est quelque chose de très important, de dire, tu vas pas écraser ceux qui dépendent de toi. Tu vas avoir une attitude de respectueuse parce que ton Dieu est respectueux envers toi. Ton Dieu n'est pas un Dieu qui t'écrabouille, qui veut t'humilier. Ton Dieu est un Dieu qui veut que tu te relèves, que tu avances, que tu marches dignement. Tu voudras le même pour les personnes sous ta responsabilité. Et toute la dynamique juive, c'est délivrer, diminuer l'esclavage toujours plus. Il y a l'idéal de dire, tout de suite, pas d'esclaves, tout le monde est égal. Quand vous faites ça, ce n'est pas une réalité. Pour que ça devienne une réalité, il faut qu'il y ait des relations de famille qui aident les personnes à sortir de l'esclavage, qui est une façon finalement de libérer les gens. Parce que sinon, ceux qui n'ont pas d'argent et on leur dit, vous êtes... Par exemple, on dit à quelqu'un, voilà, imaginons, il n'y a pas de RMI, il n'y a pas de CSA, on ne gagne pas d'argent et on dit, tu es libre, tu peux faire ce que tu veux, et par contre, le travail, il n'y en a pas pour toi. Sois heureux, sois libre. Qu'est-ce que doit faire la personne? Mourir de faim? Dans le temps ancien, ce qu'elle faisait, c'était tout simple. D'abord, elle vendait son travail. Ensuite, après avoir vendu son champ, vendu tout ce qu'elle possédait. Ensuite, elle vendait ses bras et elle se vendait elle-même à un moment donné, en disant « je vous appartiens ». Et la personne, en général, était nourrie par son maître. Et donc, elle se disait « j'évite de mourir de faim ». L'esclavage, c'était une façon d'éviter de mourir de faim. Donc, si vous disiez « plus d'esclavage », ça voulait dire quoi ? Ben, quand il y a une famine, les gens vont mourir de faim. S'ils n'ont pas de façon de trouver pour pouvoir être nourris quand même. Est-ce que c'est beau l'esclavage ? Non, c'était une mesure dans des situations extrêmes. Mais la question, c'était est-ce qu'on délivre ? Est-ce que c'est quelque chose qui dure ou est-ce que c'est quelque chose qui s'arrête ? Et tout le but de l'Israël de l'époque était de faire disparaître l'esclavage par une société dans laquelle, d'abord, c'était entre personnes de la société. Vous ne pouviez pas être esclave si vous étiez juif. Et ensuite, si vous aviez des esclaves étrangers, des esclaves juifs, il fallait les libérer. Et le but, c'était que les étrangers deviennent partie du peuple, et en même temps qu'ils deviennent partie du peuple, ils étaient libérés. Parce que le problème, c'est que si vous avez, imaginons une société idéale, et que vous avez deux moins à la Réunion, tout marche bien, et dans un an, il y a 3 millions de personnes qui viennent de Madagascar et qui disent « c'est super ici, on veut vivre avec cette société ». Ça va casser la société. Ça ne pourrait pas marcher. Donc l'incorporation des personnes étrangères ne peut pas se faire vite. Ça ne peut se faire que progressivement. Sinon, ça casse les sociétés. C'est encore un des problèmes qu'on a qui se trouve en Europe. On peut être généreux, mais ne seulement avec ce qu'on a. Et il y a toute cette structure. Et dans l'Israël de l'époque, vous voyez qu'il y a une incorporation progressive des personnes dans l'alliance. Parce que le problème, c'est que si l'étranger... Nous, on veut plus qu'il soit esclave, on le libère et que lui, il dit « Ah ben c'est bien, j'ai pas besoin d'être juif, j'ai pas besoin de respecter les lois du pays, comme les 10 commandements, et je fais ce que je veux. » Lui, il prend des esclaves, il massacre du bétail, il ne respecte pas. Qu'est-ce qui va se passer ? On va dire « Ah ben c'est plus facile, lui, il a pas besoin de respecter ses règles. » Et donc, ce n'était que progressif. Maintenant, nous allons nous tourner vers les règles relatives à la relation entre êtres humains. Donc le sabbat, vous voyez, il y a le sabbat pour les êtres humains. Est-ce qu'il y a le sabbat pour les animaux ?
Oui.
Plus fort. Est-ce qu'il y a le sabbat pour les plantes ?
Oui.
Est-ce qu'il y a le sabbat pour les terres ?
Oui.
Il y a ce qu'on appelle l'année sabbatique. Tous les 7 ans, qu'est-ce qu'on devait faire ? Ce qu'on appelle la jachère. On ne devait ne pas planter, on devait laisser reposer la terre et ne pas la cultiver. Même la terre, nous, on était censé lui donner un sabbat. Un jour par semaine n'aurait pas eu de sens pour la terre. Mais une année par tous les 7 ans avait du sens, et même il y avait une sagesse, c'est que ça permet à la terre de se régénérer et de ne pas s'épuiser en minéraux nécessaires pour les plantes et dans tous les nutriments de la terre. Et vous voyez qu'il y a une sagesse. Et c'est finalement parce que Dieu voulait que l'être humain ne soit pas un tyran de la création, mais ce qu'on appelle un lieutenant. Un lieutenant, c'est pas un chef dans l'armée, c'est celui qui tient lieu. Lieutenant. Tenant, ça veut dire tenir, et lieu, c'est qui tient lieu. Qui tient lieu de représentant de Dieu sur la terre. On était censé être des vicaires, dans le terme religieux, on appelle ça un vicaire. En termes militaires, on appelle ça un lieutenant. C'est quelqu'un qui représente Dieu sur terre. Pour que le bien que Dieu veut dans l'humanité se traduise dans toute la terre. Vous vous rendez compte ? La terre, les animaux, c'est toute la création que Dieu veut que nous soumettions avec sagesse, sans la détruire. Et on va trouver maintenant dans les relations entre êtres humains, qu'est-ce que Dieu enseigne. Vous voyez comment il y a cette jonction entre... Le numéro 4, il y a déjà cette sorte de respect du prochain, d'amour du prochain, parce qu'on ne va pas faire travailler comme des esclaves. Quand on dit faire travailler comme un esclave, est-ce que vous pensez qu'on fait travailler comme un esclave quelqu'un à qui on donne du repos un jour par semaine ? Quand on dit faire travailler quelqu'un comme un esclave, qu'est-ce que vous avez en tête ? Avec le fouet ? Déjà, les juifs, ils ne pouvaient pas blesser leurs esclaves, interdit. Sinon, les esclaves partaient libres. Ensuite, il devait leur donner ce repos. Donc, la notion d'esclavage en Israël était limitée dans le temps, limitée dans la dureté. C'était dans une certaine mesure plus doux que les serviteurs, les domestiques en France il y a moins de 100 ans. Mon arrière-grand-mère était domestique. Elle a failli mourir à 6 ans de la dureté comment dire, de sa maîtresse de l'époque, qui l'a laissé dormir moins de 6 heures par nuit, qui ne lui donnait aucun jour de repos, surtout pas le dimanche, parce que la maîtresse sortait encore plus le dimanche, donc la servante devait encore plus travailler parce qu'il y avait des fêtes à la maison. Aucun jour de repos. Vous prenez conscience que, ou on leur donnait des bouts de jours de repos, prenez conscience que nos sociétés modernes ont parfois eu un esclavage bien plus dur que ce que vous entendez ici dans les textes. Et il y a encore des pays où il y a de l'esclavage, en particulier beaucoup de pays musulmans ont encore beaucoup d'esclavage. C'est une réalité. C'est encore une fonction. Progressivement, il y a un désir de ne plus avoir d'esclavage. Alors, arrêter, limiter l'esclavage, donner du repos était une façon de commencer à aimer son prochain. On va aller un petit peu plus loin dans cette jonction entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. La première jonction, c'est dans le sabbat. Le lien, c'est entre Dieu créateur et l'être humain. Dieu, la création, l'être humain. Si Dieu aime le créateur, est-ce qu'il va faire ce qu'il veut avec la création? Non, il va aimer la création. Maintenant, on va voir les six prochains commandements. Le 5 est aussi à la jonction entre Dieu et l'humanité. Alors, je vais vous lire le verset. Donc, on va retourner dans Exode chapitre 20. C'est le verset numéro 12. Est-ce que Dominique, tu pourrais nous lire Exode 20, verset 12.
Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.
Honore ton père et ta mère afin que l'Éternel te bénisse dans le...
Afin de vivre longtemps.
Afin que vive longtemps, oui. Afin que tes jours se prolongent, certaines traductions ont sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc honorer son père et sa mère d'abord. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ce commandement et les précédents?
Avec ça, il y a une bénédiction accordée.
Il y a une bénédiction accordée. Les autres, il y avait dans le fait de ne pas se faire d'idole, il y avait le mention que Dieu bénissait ceux qu'il aime et qu'il maudit ceux qu'il maudit. Mais ce n'était pas une vraie bénédiction. Là, c'est le premier avec une bénédiction. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, il le souligne, ce point-là. Quel est l'autre point? La différence? Avant, dans les premiers commandements, il est dit « Tu feras pas ci, tu feras pas ça, tu feras pas ça. » Là, il nous est dit quoi?
Fais ça.
Fais ça. C'est le premier commandement positif. Honore ton père et ta mère. Pourquoi est-ce qu'on honorerait nos pères et nos mères? C'est à la jonction, c'est à la charnière entre la relation à Dieu et la relation aux êtres humains, parce que honorer son père et sa mère, c'est honorer ceux qui nous ont donné la vie. C'est reconnaître que la vie que nous avons, il y a quelque chose qui nous a été donné. Il y a quelque chose que nous avons reçu. Est-ce que vous pourriez être ici aujourd'hui si vos parents n'avaient fait que du mal avec vous? Si votre mère avait décidé de ne pas vous nourrir pendant 4 jours et pas vous donner à boire, est-ce que vous seriez là aujourd'hui? Si on est là aujourd'hui, c'est que nos parents, il y a eu forcément un minimum d'amour entre eux déjà, et même si ce minimum peut être très limité dans certains cas, et aussi de prendre soin de nous. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Sinon, on serait pas vivant. Je dis ça parce que souvent, on est dans une société de... C'est quoi ce qu'on souligne dans notre société moderne? Les droits ou les devoirs? Les droits. Donc ce qu'on souligne, c'est nos parents auraient dû faire ci, nos parents auraient dû faire ça. Et notre jugement de nos parents est souvent très dur. Alors je vais être honnête avec vous, il y a des parents qui font des choses qui sont mauvaises. Il y a des parents qui peuvent écraser des fois, en humiliant, qui n'encouragent pas les enfants. Ça existe. Malheureusement, ça existe. Qui peuvent battre les enfants, qui peuvent donner des coups, qui peuvent abuser des enfants. Ça existe. C'est une minorité qui existe et qui est une grande tristesse. Pour moi, je dirais, c'est une insulte à Dieu. Parce que de même qu'on a à protéger le jour du sabbat, de même on a à faire du bien, on n'a pas le droit de faire du mal à quelqu'un d'autre. Et les parents qui font du mal, c'est une catastrophe parce que l'image qu'un enfant va avoir de Dieu, de celui qui lui donne la vie, elle va venir de qui? L'image qu'un enfant a de celui dont vient la vie, elle va venir d'où à votre avis? De ses parents. L'image que vous avez de Dieu est intimement liée à l'image que vous avez de vos parents. Si vos parents étaient égoïstes, ne s'intéressaient pas à vous, est-ce qu'à votre avis on va avoir une image de Dieu positive? Est-ce qu'on va vraiment venir dire « je vais venir à la foi, c'est bien » Probablement non. Si vos parents étaient hypocrites, vous direz « moi je ne veux pas être hypocrite ». Alors, malheureusement, la réunion est connue pour deux éléments. D'abord, cet élément-là. L'autre, le plus grand nombre d'abus envers les enfants. Dans les statistiques, c'est à la réunion que ça se passe. Malheureusement, c'est une réalité. Il y a des aspects très positifs de la réunion dans ces communautés différentes qui vivent ensemble. Au niveau des relations avec les enfants, malheureusement, c'est l'île où il y a le plus de violence envers les enfants. Et ça, c'est une catastrophe parce qu'après, corriger son enfant est une bonne chose. Mais le battre, sans lui expliquer, sans jamais l'encourager, ça devient une chose très mauvaise. La correction est bonne, mais il faut qu'elle soit avec un désir de bien de l'enfant, et non pas de le casser, de le briser et de l'humilier. Et il y avait, c'était intéressant, il y avait un maître d'école, un ami de Laurence avec qui je discutais, qui disait... En tant qu'homme, j'ai un avantage à l'école parce que les premiers jours, quand les enfants viennent à l'école, si je lève la main, juste lever la main comme ça, hein, les enfants baissent la tête. Ils croient qu'ils vont prendre un coup tout de suite dès que l'homme lève la main. Ça veut dire que l'image qu'ils ont des parents, des pères, est très négative. Et ça, c'est une tristesse. C'est une réalité. Et je dirais... ça détruit la relation à Dieu. Paradoxalement, ça détruit la relation à Dieu. Peter et Rémi, vous êtes les bienvenus. La relation à Dieu est vécue à travers l'image qu'on a eue de nos parents. Et vous pouvez regarder dans chacune de vos vies l'impact que l'attitude de nos parents ont eu. Et l'attitude que nos parents, que nous avons, nous en tant que parents, si on est parents, à avoir, parce que on est représentant de Dieu envers la génération suivante. Représentant de ce qui est de bon, de ceux qui donnent la vie. Si Dieu est celui qui donne la vie, les parents sont co-créateurs. Est-ce que tu veux qu'on emmène Peter à l'école du dimanche ou comment on fait? Peter reste avec toi, Rémi? Est-ce que tu veux que Peter reste avec toi ou... D'accord. Ouais. Alors, honorer son père et sa mère, ce numéro 5, c'est cette jonction. Nous, en tant qu'êtres humains, on a à être reconnaissants pour le bien qu'on a reçu. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas reconnaître le mauvais, mais de reconnaître le bien et d'être reconnaissant pour le bon qu'on a reçu. Et ce commandement ne s'adressait pas aux enfants en général, il s'adresse à des adultes qui vont prendre soin de leurs parents quand ils vieillissent. Ce commandement n'est pas fait pour les enfants. C'est pas d'abord, tu dois honorer ton père et ta mère. En général, quand vous êtes adulte et que l'enfant est petit, il a à respecter votre autorité parce que c'est vous qui donnez à manger, c'est vous qui donnez un toit. Donc l'enfant, vous avez déjà une autorité naturelle qui est là. C'est seulement quand on a des théories étranges que cette autorité va disparaître. Quand on a des théories comme quoi les enfants, il faut les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Ça donne des catastrophes. Non, il faut pas les laisser. Il faut donner un cadre, il faut leur donner des repères. Mais quand on est petit... C'est pas là que honorer son père et sa mère est le plus important. C'est quand on devient adulte que nos parents deviennent plus faibles que nous. Parce que quand c'est eux les plus forts, les parents, les respecter, respecter le plus fort, est-ce que c'est difficile? Est-ce que si quelqu'un est plus fort que moi, qu'il est plus riche et que je dépends de lui, le respecter est quelque chose qui me demande de beaucoup d'efforts? Non. C'est normal, c'est du bon sens. Vous n'allez pas vouloir mordre la main qui vous donne à manger. Mais quand vos parents deviennent plus faibles, quand vous devenez le plus fort qui avez le travail et que vos parents sont plus fragiles, c'est là que ce commandement prend du sens. Et vous allez avoir à essayer de prendre soin d'eux comme vous pouvez. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les retraites qui permettent aux parents de pouvoir survivre même si on ne les aide pas financièrement. À l'époque, au temps des 10 commandements, au temps de Jésus, ça n'existait pas. Si les enfants ne prenaient pas soin de leurs parents, de leur donner un toit et de leur donner à manger, qu'est-ce qui se passait pour les parents? Ils mouraient. Ils mouraient de faim et de misère. Pour ça que surtout les veuves, celles qui n'ont plus de mari, c'est encore pire. Et que les premières choses que Dieu veut, c'est qu'on protège les veuves et les orphelins, ceux qui n'ont pas de protection dans la société. Aujourd'hui, ça change. Les parents ont des retraites, mais les enfants ont un devoir d'honorer les parents. Ça voudra dire, quand les parents vieillissent, de prendre des nouvelles d'eux, d'essayer de pouvoir être présent au niveau affectif, parce que les parents vont être plus faibles. Et ce commandement, nous avons à le vivre. Si vos parents sont plus âgés, c'est un devoir de prendre soin au niveau affectif aussi, de leur dire: comment vas-tu? Est-ce que je peux te donner un coup de main? Est-ce que je peux t'aider? Pour ma part, j'ai perdu mon père, mais j'essaye petit à petit d'apprendre à suivre ce commandement. On est dans une société où on a tendance à dire qu'on est adulte, les parents, loin derrière. Et j'aimerais vous dire non. Essayez de voir ce que vous pouvez faire pour honorer vos parents quand vous êtes adulte. Qu'est-ce qui pourrait être juste? Si vous avez eu des parents qui ont été violents, je ne vous dis pas allez leur dire tape-moi dessus encore. Je suis en train de vous dire, est-ce que vous pouvez développer une relation juste? Est-ce que vous pouvez encourager, donner un petit coup de main des fois, pardonner à vos parents le mal qu'ils peuvent vous avoir fait peut-être? Mais vraiment avoir une attitude de générosité, d'encouragement, qui fait que vous allez reconnaître, bon ben, il y a eu du bon quand même qui m'est venu de là. La vie que j'ai aujourd'hui ne m'est pas arrivée toute seule. J'ai reçu du bon si je suis là aujourd'hui. Et quand Jésus dira « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il dit deux choses, c'est aimer son prochain et soi-même. Ça veut dire que dans la foi chrétienne, on doit dire aux gens « Arrêtez de dire que vous êtes nuls. Ne dites jamais que je suis nul. Il y a des bonnes choses dans chacun des êtres humains. Parce que Dieu les a mises. Il a utilisé les parents imparfaitement, il a utilisé d'autres personnes, des enseignants, des enseignantes, des personnes dans la société pour nous aider à grandir. Comme le petit Peter, s'il est là aujourd'hui, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'aide à avoir des habits. Il y a son papa qui l'aide, qui l'amène et qui veut le protéger. Et on va continuer sur le numéro 6. Mais d'abord, j'aimerais que vous me répétiez, vous voyez le graphique. Donc c'est quoi l'image pour honore ton père et ta mère? Alors Rémi, tu vas apprendre. On est ici. Avec ses deux parents, qui sont gentils, qui lui font un cadeau, qui essayent de le protéger. Donc c'est un aspect, un moment joyeux, un moment gracieux. Alors paradoxalement, c'est la meilleure image pour vous rappeler que c'est une relation entre parents et enfants, mais elle est limitée cette image, parce qu'on a l'impression que ça veut dire l'enfant doit être gentil avec ses parents. Ben non, c'est quand il sera adulte qu'il devra se rappeler les bonnes choses qu'il a reçues de ses parents. Et d'encourager. Et de pouvoir lui-même essayer de donner les bonnes choses à ses parents. Et de faire mieux qu'eux, quelque part, là où eux ont été imparfaits, que lui, son attitude envers les parents soit un meilleur exemple, s'il le peut. Ou si ça a été un bon exemple, avoir une attitude de reconnaissance. Ça sera le commandement numéro 5. Préparez-vous, vous allez tous avoir à répéter ensemble de mémoire. Hein. Donc répétez tous à haute voix. Le commandement numéro 5, c'est honore ton père et ta mère. Ok? Ensuite, on va avoir le commandement numéro 6. Vous avez vu, Dieu, s'il est le créateur, il nous a créés à travers nos parents. Nos parents ont été co-créateurs, c'est à travers eux qu'on a reçu la vie. Ça veut dire que la vie est bonne, ça veut dire que la vie est sacrée. Et la conséquence, c'est le commandement suivant. Qu'est-ce que ça va être, le commandement suivant? tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas, le mot hébreu, lo tirtzach, ça veut dire tu ne commettras pas de meurtre. Ça veut dire qu'il y a des situations dans la vie où il pourra être possible de tuer. Par exemple, la guerre n'est pas interdite dans l'Ancien Testament. Si vous avez un peuple qui vous attaque, ou s'il y a des situations où vous pourrez faire la guerre, et donc tuer les ennemis. Mais c'est des situations très spécifiques. Dans les relations de communauté, on ne tue pas. S'il y a quelqu'un qui a fait des crimes très graves, il pourra être condamné à mort. Mais ça sera des situations extrêmes. Et dans le Sanhédrin, dans les communautés juives, il disait la peine de mort, le but, c'est qu'on ne l'applique jamais, l'espoir. Mais c'est quelque chose pour dire qu'il y a des péchés qui sont graves, qu'il faut, on ne peut pas finalement pécher impunément. Et si vous voulez ne pas tuer, pour punir les crimes très graves, quelle est l'autre solution que de ne pas tuer ?
Mettre en prison.
Qui va payer la nourriture de ce prisonnier ? C'est vous. C'est vous, les gens qui travaillent du moins.
L'État français dépense 90 euros par jour sur les prisonniers, mais il ne dépense que 50 euros par jour pour un étudiant à l'université.
Les prisonniers, ça coûte très cher. Donc je dirais, il y a une belle théorie, on est dans le monde de la théorie. On a la belle théorie, on ne fait plus de peine de mort. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les garder en prison. Mais qui c'est qu'il est ? Qui c'est qui va prendre soin d'eux ? Alors, après, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on se dit, les prisons, il y a trop de monde, on commence à envoyer des gens dehors avant qu'ils doivent sortir. Il y a des fous psychiatriquement qu'on va laisser dehors alors qu'on sait qu'ils ont violé quelqu'un, tué quelqu'un, et on les remet plutôt qu'ils auraient dû. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils sortent ? Ils recommencent. Il y a des cas comme ça, catastrophiques, où quelqu'un qui est dit comme complètement déséquilibré, qui doit être, dont la société doit être protégée, va être remis en liberté et va retuer ou violer ou massacrer quelqu'un. Alors oui, lui, il n'a pas contredit ça. En soi, il n'y a pas eu d'opposition. Ça a été un des débats les plus houleux. Et parce que oui, il y a eu ces questions. Alors certains chrétiens, par exemple, vous avez les Mennonites qui vont dire non, on ne fait pas la guerre, on ne tue pas. Et vous avez d'autres qui vont dire oui. Alors c'était Thomas d'Aquin qui avait donné un argument en disant si la guerre juste est autorisée. Quand vous avez finalement quelque chose, vous devez protéger des fois. Et si vous ne vous protégez pas, c'est tout le débat, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, Hitler, pourquoi il a pu faire tant de mal ? Parce que personne ne lui a fait la guerre plus tôt. S'il y avait eu la France qui avait attaqué l'Allemagne avant qu'elle se soit réarmée, il y aurait eu beaucoup moins de morts. C'est une des conclusions logiques, je dirais, qu'on voit par rapport à ça. Mais il y a eu plus de 20 millions de morts, je crois, en tout, avec la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale. Plus de 50 millions ? Donc vous voyez un peu les catastrophes. Alors est-ce que c'est bon ? Non, mais il y a des fois où c'est nécessaire. Alors cette question de... Alors attendez, je... ne pas commettre le meurtre, j'ai oublié mon fil de pensée. Donc désolé. Ne pas tuer, c'est finalement une façon de dire on respecte la vie. Oui, je voulais vous dire, il y avait une autre technique pour les gens qui ont fait du mal, qui avaient tué ou quoi, pour ne pas les tuer. Vous savez comment on faisait avant ? L'option autre que tuer ou mettre en prison, il y a eu une période dans le monde où il y avait encore des endroits où il n'y avait personne.
L'île de la Réunion.
On les envoyait, ou à Lille, par exemple, comme l'île de la Réunion, qui était un endroit pour des forçats, des gens qui avaient été... Une autre grande île, ça a été l'île d'Australie, où c'était tous les bagnards, tous les forçats qu'on envoyait d'Angleterre vers l'Australie. Après, vous n'ayez plus à payer. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, c'était juste pour vous mentionner que il y a du bon sens à avoir. Alors, tu ne tueras pas. Et dans l'Ancien Testament, il est dit, celui qui tue sera tué en retour. la violence qu'il a eue envers les autres sera sa punition. Ensuite, vous avez vous pouvez répéter, vous avez vu le dessin, c'est une personne en noir avec quelqu'un qui le tue dans le dos. Donc vous avez d'abord le cinquième commandement, honore ton père et ta mère. Juste en dessous, regardez votre petite feuille, hein, si vous l'avez. Tu en as une, Anton ? D'accord. Donc, ne pas tuer, c'est une des conséquences. Vous voyez, ça découle juste en dessous le dessin de honorer son père et sa mère. Si on honore son père et sa mère, on honore celui qui nous a donné la vie. Et de même, on ne prendra pas la vie. On ne tuera pas. Est-ce que je peux me tuer, moi ? Non. J'appartiens à qui, moi ? Je ne m'appartiens pas à moi-même. J'ai reçu la vie. Et si j'ai reçu la vie, je ne peux pas me la prendre. Et donc, le suicide n'est pas autorisé. Ce n'est pas une option. Donc, ne pas tuer, ça inclut ne pas se suicider. C'est commettre un meurtre contre soi-même, se suicider. Alors, ça, c'est une discussion qu'on pourra avoir après. C'est pourquoi les gens se suicident. Si tu veux, on en discutera après, Rémi. C'est un point important de discuter. Ne pas tuer. Pour...
Ça va dans tous les sens, les animaux aussi.
Alors non, c'est tuer pour des êtres humains.
Là-bas, c'est un tas de vie sur le
consommé. Voilà. Alors, dans l'Ancien Testament, tu n'as le droit de tuer des animaux que dans un cadre de reconnaissance envers Dieu. Quand tu tues un animal, c'est une offrande que tu fais à Dieu, c'est un aspect de sacrifice. Et donc, il tuait beaucoup moins d'animaux. Et ils le tuaient avec une reconnaissance que cette vie leur a été donnée. Et donc, pas du tout avec la notion... Aujourd'hui, ce qui est très surprenant, c'est que on va attaquer les Juifs et les musulmans en disant « C'est horrible, ils vont faire couler le sang des animaux. » Mais j'aimerais vous dire, est-ce que vous avez déjà vu les endroits où les poulets grandissent ? Comment on tue les vaches ? Comment on tue les poulets ? Vous savez, vous, comment on tue... comment les conditions de vie de ces animaux, en général, dans notre société évoluée et moderne ? C'est déplorable. Il y a des animaux qui n'ont jamais vu le jour, qui sont nourris, engraissés. C'est comme si c'était des machines. On leur met que des machines autour et les animaux ne sont tués dans des sacrifices que pour être, pour se nourrir d'abord et avec une attitude de reconnaissance. Donc il y a vraiment, je dirais, avant que vous vous mettiez en colère contre les musulmans ou les juifs parce qu'ils sacrifient des animaux... Attendez, regardez d'abord, balayez toujours devant votre porte avant de balayer devant la porte des autres. Renseignez-vous pour savoir comment les animaux sont tués, ce que vous mangez. Peut-être vous mangerez un peu moins de viande si vous vous rendez compte comment ça se passe. Mais c'est une des réalités. Alors, donc, cachez les graphiques. On va voir ceux qui ont été la semaine précédente. Vous pouvez répéter tout. Les autres, vous répétez que ceux que vous avez eus. Alors, de ce côté-là, cachez tous l'image. Voilà, Rémi, tu vas cacher l'image aussi. Cache, tu la retournes. Voilà. Alors, c'est quoi le commandement numéro 5 ? Honore ton père et ta mère. D'accord. De l'autre côté, c'est quoi le commandement numéro... Jusqu'à Frédéric. Laurence, tu es de ce côté-là. Donc les autres, faut se taire, hein. Le commandement numéro 3. Tu n'étais pas là, mais c'est bon, tu connais. Alors, de ce côté-là, quel est le commandement numéro 4 ? Très bien. De ce côté-là, alors ceux qui ont répondu seuls ne peuvent pas répondre à nouveau. Donc Laurence, Frédéric, Tommy, il faut laisser les autres après. De ce côté-là... C'est quoi le commandement numéro 6 ? De ce côté-là, c'est quoi le commandement numéro 1 ? Tu n'auras pas d'autre Dieu. Ok. Super. On va continuer ensemble. Maintenant qu'on a vu les 6 premiers, on va voir les 4 derniers. Vous voyez comment il y a la question d'honorer son père et sa mère, comment c'est lié à ne pas tuer. C'est vraiment le respect de la vie qui est en jeu. Et en même temps qu'il y a le respect de la vie, il y a le respect des relations, le respect des alliances entre Dieu et les hommes. On ne tue pas un être humain, on ne sépare pas un être humain de Dieu. mais on ne peut pas séparer un couple qui est uni devant Dieu. On ne peut pas commettre l'adultère. Commettre l'adultère, c'est s'engager dans une relation sexuelle avec une autre personne que la personne avec qui on est marié. Et ça, c'est déplorable devant Dieu parce que Dieu veut que nous soyons fidèles. Dieu veut que nous soyons des êtres humains fidèles qui puissent s'engager et faire le bien les uns envers les autres et construire. Pour que les couples et les familles soient saines, il faudra qu'il y ait fidélité. La fidélité est verticale entre Dieu et les hommes et horizontale entre un homme et sa femme dans les couples. Et aussi, cette fidélité se manifestera dans toute la communauté humaine. Donc, vous voyez, on est passé du vertical complet, relation avec Dieu, jusqu'au au numéro 4. Ensuite, numéro 5, c'est l'intermédiaire entre Dieu et vous, ça a été vos parents. Avec le numéro 6, c'est prendre conscience que si Dieu donne la vie, on ne tue pas. Déjà, on commence à être dans l'horizontale, relation entre êtres humains. Le pire qu'on puisse faire, c'est de tuer quelqu'un. Ensuite, l'étape suivante, c'est ne pas briser les relations de fidélité entre deux êtres humains, entre un homme et une femme qui se sont unis. Parce qu'il y a quelque chose de sacré dans le couple humain. Il y a quelque chose de beau et de noble, et que Dieu veut bénir et protéger. Les familles ont besoin d'être protégées. Et c'est pour cela que Dieu veut des familles qui tiennent, qui soient solides. Des familles sont cassées, et souvent, il y a du péché, ou d'un côté ou de l'autre, pour que les familles soient cassées. Et ensuite, on va avoir le commandement suivant. De même qu'on ne commet pas l'adultère, qu'on ne prend pas la femme de son prochain, l'étape suivante, ça va être, là on était au numéro 7, numéro 7, pas commettre d'adultère. Numéro 8, ça va être, ne pas prendre quoi ? Ne pas prendre les biens. Ne pas voler. Donc, on a... Le cinquième, c'est quoi le...
Honorer.
Après, ceux qui ne regardent pas le graphique. Tu n'y rateras pas. Après, ne pas tuer. On a... Voilà, pas commettre d'adultère, c'est le numéro 7. Ensuite, après, tu ne voleras pas. Ne pas voler, finalement, c'est vraiment le respect du prochain. Ne pas prendre ce qui appartient au prochain. Parce que si ce que vous avez autour de vous, les gens peuvent vous le prendre, votre vie devient très instable. C'est très difficile de construire une vie si on vous prend sans arrêt ce qui vous appartient, ce que vous avez. Et ne pas voler est un des fondements des sociétés modernes. Il est mis en numéro combien de tu ne voleras pas ? 8. En général, les sociétés, elles mettent en quoi en premier pour leur commandement ? 1. Tu ne tueras pas. 2. Tu ne voleras pas. En général, ils mettent ces deux-là. Mais il y en a beaucoup qui sont laissés de côté. Est-ce qu'on est puni par la loi française si on commet l'adultère ? Malheureusement, non. Alors, je dis malheureusement, je ne sais pas quelle punition il pourrait y avoir de l'autre côté. Donc, sous certains aspects, la loi serait bien incapable de punir. Mais c'est un péché. C'est un péché, c'est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Qui est à l'opposé, tout comme Dieu veut une relation fidèle avec son peuple, pour qu'on puisse avancer. De même, pour que les familles avancent, il faut que les couples soient fidèles. J'ai entendu l'histoire d'un homme qui, par exemple, il y a des hommes qui vont être infidèles pendant des années, qui vont avoir des maîtresses. En général, pour avoir des maîtresses, il faut avoir l'argent qui suit, hein. Ça marche comme ça, malheureusement. Hein. Ne soyons pas naïfs. Et sa femme, qui était la femme officielle, qui ne savait pas, le jour où elle apprend ça, toute sa vie qu'elle a développée dans une fidélité à son mari, elle s'aperçoit, moi j'ai été fidèle, et lui, il m'a menti. Il m'a menti, et il s'est moqué de moi. Dieu veut vous être fidèle à chacun d'entre vous. Être fidèle à son alliance et vous bénir en conséquence. Mais si vous n'êtes pas fidèle à lui, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que si vous dites, « Oh ben lui, Dieu, il donne la pluie, il donne le soleil, tout ça, ça marche bien. De toute façon, c'est pas vraiment lui qui donne, c'est automatique, c'est machinal. » Tout comme l'enfant qui est nourri par ses parents tous les jours pourrait dire « Oh, moi, j'ai pas besoin d'être reconnaissant à mes parents, moi, de recevoir la nourriture, c'est machinal, c'est automatique, ça vient tous les jours. » Mais quand on commence à faire comme ça, bah, vous commencez à ne plus être fidèle à Dieu. Et dans les relations humaines, de même, un homme et une femme pourront être fidèles que si ça marche dans les deux sens. S'il y a un côté qui dit « Moi, je fais ce que je veux », l'autre ne pourra pas être fidèle. Et la relation, l'amour que Dieu veut, ne pourra pas se construire. C'est pour ça que l'adultère est interdit. Et maintenant, ne pas voler, c'est pour que les relations entre nous puissent se passer correctement. Si Dominique, je lui vole des choses, est-ce qu'il pourra avoir une bonne relation avec moi? Non. Il se dira, mais quand je suis en relation avec lui, il ne me respecte pas. Il ne respecte pas les choses qui m'appartiennent. C'est le commandement numéro combien déjà, ne pas voler? C'est le combien déjà, ne pas faire l'adultère?
7.
Vous avez vu celui ne pas tuer, donc on avait le 5 avec honorer son père et sa mère. Juste en dessous, il y avait le papa et le ne pas tuer avec la personne avec ses deux jambes. Ça sera les commandements 7 et 8. Ne pas commettre l'adultère, ne pas voler. Ensuite, après ne pas voler, on a quelque chose très proche de voler. C'est tu ne donneras pas de faux témoignage. Pourquoi est-ce que ne pas donner de faux témoignages pourrait être lié à ne pas voler?
Parce que peut-être qu'on vise un vol, par exemple.
Pourquoi est-ce qu'on donnerait un faux témoignage?
Pour
avoir un gain. Pour cacher la vérité. Pourquoi on cacherait la vérité? C'est qu'on a un intérêt. Mais que cet intérêt est mensonger, et qu'il y a seulement par le mensonge qu'on va l'obtenir. Ça s'appelle comment quand on obtient quelque chose par le mensonge et de manière cachée? Quelque part, c'est un vol. C'est une forme de vol quasiment. Je vais jusqu'à l'extrême, mais en général, dans le temps de l'Israël, où vous aviez ces commandements, vous aviez la possibilité d'avoir un pot de vin, on vous donnait de l'argent pour que vous fassiez un faux témoignage. Pour que, par exemple, quelqu'un d'autre puisse obtenir un champ auquel il n'a pas le droit. Vous aviez quelqu'un, vous voulez lui voler son champ, quelqu'un l'accusait, et ensuite, on l'accusait, par exemple, de blasphème, il allait être tué, par exemple, et ensuite, on pouvait prendre son champ. Ça se passera dans un cas, par exemple, dans la vigne de Naboth, où un roi va accuser avec des faux témoins, un monsieur qui s'appelle Naboth. Ces faux témoignages, finalement, quand on dit un mensonge sur quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui en reste. Quand quelqu'un veut tuer son chien, vous savez ce qu'il fait? Il dit qu'il a la rage. C'est l'expression, quand quelqu'un veut tuer son chien, il dit qu'il a la gale ou la rage. Donc on fait un mensonge, un faux témoignage pour justifier ce qu'on fait. C'est une pratique malheureusement assez répandue et qui n'a pas disparu. Le mensonge pour obtenir un gain. Et vous pouvez dire que le 8 et 9 sont intimement liés. De donner un faux témoignage, c'est souvent lié à l'aspect de vol. Donc, numéro 9, vous pouvez répéter après moi. Alors, c'est tu ne donneras pas ou tu ne feras pas de... Tu ne donneras pas de faux témoignages. On répète tous ensemble, numéro 9. Ok, préparez-vous parce que bientôt on va se faire le jeu entre nous. Ensuite, le numéro 10, c'est celui qui va reprendre en plus profond, il va approfondir tous les précédents. Pourquoi est-ce que... On tuerait quelqu'un, en général, soit ça peut être par colère, soit parce qu'on a convoité quelque chose de la personne. Pourquoi l'adultère, c'est on a convoité quelque chose qui ne nous appartient pas. Le vol, c'est qu'on a convoité, on a eu le désir qui est né dans notre cœur de quelque chose qui ne nous appartient pas et on l'a pris de manière qui n'est pas juste. Pourquoi on donnera un faux témoignage? Souvent, c'est lié au vol, parce qu'on a convoité quelque chose qui ne nous appartient pas. Donner des faux témoignages, ça existe encore aujourd'hui. Malheureusement, et c'est une des choses complexes à discerner pour un juge. Et le numéro 10, c'est « tu ne convoiteras pas ». Alors j'aimerais qu'on lise. Est-ce que, Laurence, tu pourrais nous lire le verset numéro 17? Exode 20, pardon. Exode 20, verset 17. Merci Laurence. Tu ne convoiteras rien de ton prochain. Rien qui lui appartient. Que ce soit sa femme, que ce soit son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne. Rien qui appartient à ton prochain. Dans notre monde humain, on a tendance à regarder ailleurs. On est dans une société de la convoitise. Vous savez quel est le but de la publicité ? Créer chez vous la convoitise, créer un désir pour quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Le seul but de la publicité, c'est de créer un désir pour quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Si vous en aviez besoin, est-ce que vous auriez besoin de publicité ? Non. Hein ? Pour comparer les prix. Mais si les prix étaient vraiment meilleurs pour un produit plutôt qu'un autre, est-ce que vous auriez besoin de beaucoup de publicité? On le saurait. Si vous savez que tel magasin vend beaucoup moins cher, est-ce que vous avez besoin de beaucoup de publicité pour aller acheter là, si c'est meilleur? Est-ce qu'ils font beaucoup de publicité? En général, on fait de la publicité pour une chose plus intéressante pour une durée de temps très courte, pour vous attraper et que vous alliez dans les autres rayons du magasin prendre d'autres choses. Donc le but, c'est de vous attraper, comme on attrape un poisson, comme on attrape quelqu'un par ruse. C'est développer la ruse. Pourquoi ? Vous avez déjà remarqué comment les grands magasins changent l'ordre de leurs rayons assez régulièrement ? Est-ce que vous avez une idée pourquoi ils font ça ?
Ils mettent dans l'allée centrale les produits qu'ils veulent vendre.
Ils mettent les produits qu'ils veulent vendre dans l'allée centrale. Le but des magasins, c'est de vous faire passer au maximum d'endroits où vous ne seriez pas passé pour vous faire acheter le maximum de choses. Et ils vont changer des fois des rayons pour vous forcer à aller dans un autre point du magasin. Vous avez déjà remarqué où est-ce qu'on met le lait et les œufs ? Pourquoi ils ne le mettent pas à l'entrée ? Tout ce dont vous n'avez pas besoin majoritairement est mis à l'entrée. Tout ce que vous avez vraiment besoin est mis au fond. Parce qu'on veut que on veut vous attraper avec tout ce dont vous n'avez pas besoin. Et finalement, c'est une façon de développer la convoitise. Il y a même eu une publicité d'un vendeur de téléphone qui montrait deux personnes dans un lit et il y a une femme qui se relève et qui dit quelque chose. Vous vous rappelez, je crois, Dominique, tu me l'avais mentionné. C'était quoi ce qu'elle disait, la dame ? Sans engagement.
Voilà, sans engagement. Dans ses pensées, comme une ronce, je me débarrasse plus, donc pas d'engagement.
Oui, c'est ça. C'était affiché même sur les routes, hein. Elle regarde comme ça parce qu'il est en train de ronfler.
Elle le regarde parce qu'il est en train de ronfler et elle dit sans engagement. Qu'est-ce qu'ils sont en train de comparer ? De dire la sexualité n'a pas d'engagement, finalement c'est du je prends, je jette, hein. Quand je vous dis on prend, on jette, ça marche entre personnes aussi. C'est ce que la société développe, cette société de consommation. On consomme les êtres humains. On consomme les relations, on consomme les produits. Court. Après, peut-être, ou
très court. Il y a une autre aussi qui fait dans le même genre en ce moment pour dire ah, il faut coucher avec tout le monde. C'est un lit qui dit « Voulez-vous coucher avec moi ?»
Oui, tu as. Vous avez tout ça, finalement, d'essayer de développer votre convoitise pour ce qui ne vous appartient pas. Alors, la technique pour essayer de la rendre acceptable, c'est que cette convoitise, on essaye de la cadrer dans ce qu'on appelle des magasins. Comme ça, vous pouvez convoiter quelque chose, mais vous allez passer de la convoitise à l'achat assez rapidement. Ce qui fait qu'après, c'est autorisé. Mais finalement, c'est très récent, cette technique de la convoitise, de développer avec la publicité. Dans le temps ancien, on allait dans un magasin pour acheter quelque chose dont on avait besoin. et on passait pas du temps à se balader dans les magasins pour le plaisir. Parce que finalement, cette notion de convoiter était beaucoup moins présente. Aujourd'hui, c'est plus fort. Et le dernier commandement, le numéro 10, ne pas convoiter. Oui, pour dire toutes les choses de ton prochain. Pour dire toutes les choses de ton prochain, parce que comment est-ce qu'on va pouvoir avoir des relations d'amitié, de fraternité, si on regarde l'autre en pensant à ce que la personne a? Si je veux être ami avec Dominique, je pense toujours à ce qu'il possède. C'est pas possible. L'amitié n'est pas possible si on convoite. Et les relations saines ne sont pas possibles si on est dans la convoitise. Et ce sera paradoxalement la convoitise, c'est un des textes les plus anciens qui vont en parler, qui dit c'est pas bon. Parce que le but de Dieu, ce n'était pas seulement qu'il y ait une société où il y ait beaucoup d'argent, ou une société où il y ait des bons guerriers. Le but de Dieu, c'est une société où il y ait beaucoup d'amour, d'amour entre les gens. Et pour cela, il faut que la convoitise ne soit pas encouragée, mais qu'on dise c'est contraire à sa volonté de Dieu, de convoiter. Et donc, c'est le numéro 10. Est-ce que vous êtes prêts à répéter les 10? Vous cachez tous les feuilles? Alors, on va commencer l'un après l'autre et chaque personne suivante peut poser la question. Alors, si vous avez quelqu'un qui n'était pas là la semaine dernière, et si les personnes ne se rappellent pas, vous dites « j'étais pas là la semaine dernière ». Vous êtes interrogeable que sur les 5 à 10. Et ceux qui étaient là la semaine dernière, vous avez la joie d'être interrogeable sur les 10. Lily, est-ce que tu pourrais me dire... Ou attends, j'ai commencé par toi cette fois-ci, on va commencer de l'autre côté, là, on va honorer Pierre. Pierre, est-ce que tu pourrais me dire quel est le commandement numéro 7, s'il te plaît? Juste avant 8. Pense aux images, hein. Tu commettras pas d'adultère. L'image, c'est un cœur brisé. Parce que l'adultère brise le cœur de Dieu, quelque part, mais c'est l'amour qui est uni entre un homme et une femme est brisé par adultère. Et la fidélité n'est pas possible. S'il y en a un qui est infidèle, cette relation va avoir un dommage majeur. Pierre, à toi de poser une question. Le numéro combien? Oui, tout à fait. Numéro combien tu as demandé? 5. Ok, l'image?
C'est un papa à gauche et maman à droite. C'est un enfant au milieu avec un cadeau de jeunes.
Ok, Juliette, à toi. Choisis quelqu'un. Alors, Mémé, est-ce que vous arriveriez? On vous fait jouer? Est-ce qu'il y a un commandement dont vous vous rappelez, mes fillettes? Oui, c'est bon. De tout ce qu'on a parlé, lequel vous avez entendu? On va laisser mes fillettes. Voilà. Ça va bien, mes fillettes. Le convoité, c'est le numéro, c'est le dernier, c'est facile. C'est celui qui reprend un peu tous ces aspects au niveau de la relation au prochain, c'est le numéro 10. Le 9, c'est juste avant. Alors, il faut penser aux images, en fait. Si on ne pense pas aux images, on n'y arrive pas. Alors, sinon, Anise, regarde l'image, et puis, c'est juste au-dessus de... Voilà. C'est bon.
Tu ne donneras pas de photos.
Très bien. À toi. Et les autres, vous pouvez vous préparer pour que vous soyez à l'aise pour le... Non, Donc quel commandement, Anis?
Le 7.
Le 7.
Le 7, si tu ne commettras point d'adultère.
Ok, à toi. Cœur beau. Ouais. Ça, c'est une bonne question parce que ça vous force à être attentif. C'est quoi le commandement avant? Si on n'a pas attendu.
Non, parce que j'étais pour réfléchir.
Voilà, donc.
On avait le commandement donc, de l'adultère, juste avant l'adultère, c'est tu ne tueras point.
D'accord. Commandement numéro
commandement 6.
Très bien.
C'est quel commandement où on dit.
C'est celui que tu viens de dire. C'est tu viens de le dire, Dominique. Dominique, tu viens de le dire. Tu viens de le dire, là. Essaye de changer. Demande pas le même que celui qu'on vient juste de te poser. Ok. Alors, Colline, je vois que ceux d'à côté sont un peu embêtés parce qu'on ne le fait pas participer, donc prends au hasard. Et puis, comme ça, vous posez des questions au hasard.
Tommy. J'étais pas au quiz le dimanche dernier. Alors, quel commandement j'ai commis?
Que je peux respecter.
T'as pas été à l'église?
J'étais pas au quiz. Le dimanche dernier. Alors, je commis quel.
C'est difficile là. C'est
difficile. Là.
Mais est-ce que tu peux garder le sabbat sans être à l'église?
Moi, je pense que oui, quand
même. Ben oui, tu peux aussi.
Non. J'étais pas là.
Ah! Oh! Oui, oh, Colline est rusée. Colline est rusée, hein. C'est beaucoup plus intelligent que j'avais pensé. Colline dit, je n'étais pas là à l'église dimanche dernier. Qu'est-ce que. Colline nous a tous eu là.
Bravo, bravo.
Tommy, c'était le commandement numéro combien? À toi maintenant. Numéro 2, ok. C'est quoi le commandement? À toi. Tu ne te feras pas d'idole, ouais.
Troisième. Faut réfléchir. Un, deux.
Tu te rappelles plus du nom du 4?
Non,
du 3. Le nom du 3, tu te rappelles pas?
Non, j'essaie de m'en rappeler le dessin du 3. Je me rappellerai si je le dessin.
D'accord. C'est plus difficile à se rappeler, celui-là. Je te le dessine.
Même si tu l'écris, tu ne pourras pas le dire.
Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain.
Ok. Voilà, donc c'est le commandement. Très bien. Et c'est une. Ouais, tu ne convoiteras pas. Très bien. À toi, Alain, de choisir quelqu'un. Tu as encore Rémi, tu as Lily et Laurence. Quatrième commandement. Essaye de penser aux images, c'est ce qu'il y a dit. Est-ce que c'est la première moitié ou la deuxième moitié? Est-ce qu'on a fait cette semaine ou la semaine dernière? Le dernier de la semaine dernière, c'était quoi? C'est pas grave. Est-ce que Tommy, tu pourrais l'aider? C'est quoi? Très bien. Très bien. C'est bon. Lily, à toi. Tu as encore Laurence et Rémi. Rémi, on peut poser la question? Non. Hein? Voilà. Quel commandement? Tu ne tueras pas. Ok. C'est numéro combien le tu ne tueras pas qui pourrait dire? Numéro 6. Exact. Ok. Avec les 10 commandements, vous avez le fondement de l'enseignement de Dieu sur ce qu'il veut. C'est quelque chose sur lequel Jésus va développer pour expliquer que finalement, au-delà des choses à ne pas faire, le but de Dieu, c'est l'amour entre personnes. Aimer. L'amour pour entre les différentes personnes, un amour juste. Alors quand on dit amour dans le monde moderne, malheureusement, on pense bien trop souvent à l'aspect sexualité. C'est pas la sexualité l'amour. L'amour, c'est la générosité, l'écoute, l'amitié. C'est avant tout cela dont Dieu parle. Et dans un couple marié, ça sera cette forme, une forme spécifique et unique qui est belle, c'est la sexualité. Mais on ne commence pas avec ça. On commence par une rencontre entre personnes. Parce que Dieu veut de l'amour dans toute la communauté humaine. Et c'est ce à quoi il veut nous encourager. J'aimerais finir par un mot de prière. Et en même temps que je prie, j'aimerais vous dire, dans votre cœur, quel est le commandement où vous sentez que Dieu vous invite à avancer? Où il y a des choses où vous avez appris quelque chose. Et que vous pensez que Dieu vous invite à changer, à apprendre, ou à mettre quelque chose en pratique par rapport à tel commandement. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour les enseignements que tu nous donnes pour respecter la vie, pour la respecter dans sa forme de l'humanité, la respecter à travers notre respect pour toi, Père Céleste, la respecter dans les animaux, dans la nature. Merci Seigneur aussi pour les enseignements précis et pratiques que tu nous donnes dans les 10 commandements. Je te prie que tu bénisses chacun d'entre nous d'un discernement pour savoir à quel endroit tu veux nous enseigner, à quel endroit tu veux que nous changions, que nous bougions, que nous avancions. Je te remets ces deux minutes de méditation personnelle, chacun en silence, pour que tu puisses nous guider. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie que tu nous donnes. Merci de nous guider chacun vers toi, que nous puissions marcher en vérité, en sainteté de vie. Une vie qui soit à ton honneur, une vie d'amour, de droiture, de justice et de paix dans notre relation avec toi et de respect envers notre prochain et d'amour véritable. En ton nom je prie, Seigneur Jésus-Christ. Amen.